الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو العاشر من شهر رمضان عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في المجلس الثاني من الكتاب المبارك والرسالة النافعة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مستعينين بشرح الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليهم رحمة الله جميعا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى اتباع السنة، ويهدينا سواء السبيل، ويشفي قلوبنا، ويعلمنا فقها وعلما نافعا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على السنة، وأن يجعلنا ممن قد أحب السنة وعمل بها ودعا إليها فتعلمها وعلمها، إن الله سميع الدعاء سبحانه وتعالى. Nous sommes le 27 juin 2015 et ceci est la deuxième assise de l'étude de cet épître, de cet écrit magnifique Usul Sunna, les fondements de la Sunna, de son auteur l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Et comme nous l'avons déjà dit, nous allons nous aider du commentaire du noble savant, le Cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son assistance, son aide. Car celui qui vit sur la sunnah, qui appelle les gens à la sunnah, qui met en pratique la sunnah, qui étudie la sunnah, qui enseigne la sunnah, والله الذي لا إله غيره، par Allah, celui en dehors duquel nulle divinité n'a le droit à l'adoration, il fait partie de ceux qui ont réussi dans ce bas monde. Et chez les pieux prédécesseurs, quand il y avait un mort, les savants de la Sunna venaient visiter la famille de ce mort et interrogeaient la famille du défunt en disant: était-il sur la Sunna, c'est-à-dire dans sa croyance et dans sa méthodologie? Si la famille du défunt disait oui, il disait alors réjouis-toi. Allahu Akbar. Et l'imam Ahmad rahimahullah a dit que la tombe d'un dévot, un ascète, un pieux, quelqu'un qui fournit des efforts dans l'adoration d'Allah parmi les gens de l'innovation, est un abîme parmi les abîmes du feu de l'enfer. Alors que la tombe d'un pécheur pervers ayant la croyance de la sunna est un jardin des jardins du paradis. Subhanallah. Et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que nos intentions soient les plus pures, les plus sincères. Car comme vous le voyez, beaucoup de visages qui viennent de différents endroits, si les cœurs de ces visages sont habités par le désir de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est l'amour de la sunna qui a fait bouger leurs pas et qui les a amenés dans cet endroit pour écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne comme croyance, wallah, ils sont les bienheureux. À plus forte raison pendant cette période, ce mois de Ramadan, le mois béni, le mois où Allah tabaraka wa ta'ala accorde le pardon, affranchit des âmes de l'enfer. Subhanallah. Quelle meilleure âme que celle de celui qui fournit les efforts pour apprendre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asallahu alayhi wa tawfiq. Usul sunnah, les fondements de la sunnah. Ce livre de l'imam Ahmad rahimahullah a été décrit par un des savants de son madhhab, de son école, Ibn Abi Ya'la rahimahullah, dans son livre intitulé At-Tabaqat ou Tabaqat al-Hanabila, où il parle des savants de l'école de l'imam Ahmad rahimahullah. Il dit: لو رحل الرجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. Si l'homme voyagea jusqu'à la Chine à la recherche de cet écrit, les fondements de la Sunna, ça serait peu. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Car en fait, il fait une courte biographie de celui parmi les élèves de l'imam Ahmed, le dénommé Abdous ibn Malik al-Attar, rahimahullah, qui a rapporté Usul al-Sunna, celui qui est la cause de la présence de cet écrit devant vos yeux aujourd'hui. Quand il a fait une brève biographie de lui, il a cité que Abdous ibn Malik al-Attar, l'élève de l'imam Ahmed, qui a rapporté Usul al-Sunna, rahimahullahu ta'ala, était apprécié chez l'imam Ahmed. Il était aimé de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et les savants n'ont pas cité beaucoup de récits, beaucoup de faits dans sa vie. Si ce n'est qu'ils ont cité que c'est lui qui a rapporté cet écrit. Puis ils ont dit, cet écrit, si l'individu voyageait vers la Chine pour l'apprendre, pour le comprendre, à la recherche du contenu de cet écrit, il aurait fait peu. Et certes, ils ont raison de dire ça. Car dans cet écrit, il y a les fondements de la croyance des gens de la Sunna, la croyance qui t'épargne, ou par laquelle Allah t'épargne du feu de l'enfer et te fait entrer au paradis, la croyance par laquelle tu es pieux, la croyance par laquelle Allah t'accepte et t'agrée, subhanahu wa ta'ala. Et le but de l'étude, c'est d'arriver à la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmad, ou bien les rapporteurs, les narrateurs, ceux qui ont rapporté ce récit, disent, le premier c'est le cheikh Abu al-Muzaffar. Ici je vais vous lire la chaîne de transmission avant de passer à la risala ou à l'écrit lui-même. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala cheikh al-imam Abu al-Muzaffar عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل Rahimahullahu ta'ala yaqul. Ici vous venez d'entendre les noms de ceux qui ont rapporté cet écrit de l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah, qu'Allah le préserve, dans son commentaire de Usul al-Sunna a dit que les pieux prédécesseurs dans la recherche de la science s'investissaient et était très motivé pour connaître la chaîne de transmission. C'est-à-dire que lorsque il prenait la science, il prenait un écrit d'un imam, il s'intéressait à la chaîne de transmission, celle qui va permettre de confirmer ou non l'authenticité de l'affiliation de cet écrit à son auteur. Et c'est pour cela que ils ont, en ce sens, dans leurs écrits, citer les noms des rapporteurs de hadith. Et c'est ce qu'on appelle al-isnad. Al-isnad. Al-isnad dans la science du hadith est défini comme étant al-tariq al-mousil ila al-matn. La voie qui fait atteindre le texte. C'est-à-dire, comment tu sais que ce texte est bien véridique, est bien authentique? Avec la chaîne de transmission. Qui te l'a dit? De qui il l'a entendu? De qui il l'a entendu? jusqu'à arriver à l'auteur du propos dont on parle et dont l'authenticité est traitée. C'est ce qui est fait ici. Et les savants de la Sunna disent, comme a dit Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, des salafs, des pieux prédécesseurs, al-isnad min ad-din. Al-isnad fait partie de la religion. Il dit al-isnad min ad-din. Walawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. L'isnad fait partie de la religion. Et sans l'isnad, tout le monde aura dit ce qu'il veut. Tout le monde aura dit ce qu'il veut. On n'aurait pas pu vérifier l'authenticité des propos, qui les a dit, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que l'imam qui rapporte directement de l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est son élève, Abdus ibn Malik al-Attar, rahimahullah ta'ala. Ahmed lui a remis cet écrit, et c'est lui qui l'a rapporté à la Ummah, rahimahullah wa jazahullahu khayran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Dans la première partie de Usul al-Sunnah, l'imam Ahmed rahimahullah dit Usul al-Sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa liqtida'u bihim wa tarku al-bid'a wa kullu bid'atin fahiya dalala wa tarku al-khusumat wal julus ma'a ahl ma'a ashab al-ahwa wa tarku al-mira'i wal jidal wal khusumat fi ad-din. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala commence dans son introduction en disant: chez nous, les fondements de la sunna consistent à se cramponner à la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les prendre pour modèle, délaisser les innovations religieuses, car toute innovation est égarement, ne pas s'asseoir avec les hommes des passions et délaisser la discussion, la polémique ainsi que les disputes en religion. Ceci est la première partie de l'écrit de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, Usul al-Sunnah. Tout d'abord, le titre Usul al-Sunnah. Le sens de usul, d'abord dans la langue arabe, usul est un pluriel. Il est le pluriel du terme aslun. Et le terme aslun dans la langue arabe signifie ce sur quoi quelque chose va être bâti, ce sur quoi quelque chose va être posé. À titre d'exemple, vous êtes en ce moment même dans un édifice qui a des fondements sous la terre. Les fondements qui sont sous la terre sont ces usul, ces bases sur lesquelles va tenir cet édifice. Al-Sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhahullah, car on se base sur le sharh du Sheikh Ahmed al-Najmi, mais quand il y a un intérêt et un plus, on rapporte les paroles des autres savants dans leurs commentaires. Al-Sheikh Ubaid, hafidhahullah, a cité dans son commentaire justement que avec le terme aslun dans la religion, on a vu son sens linguistique, dans la religion, plusieurs choses peuvent être voulues, parmi lesquelles ce qu'on appelle al-qa'idatul 'amma, c'est-à-dire la règle générale. Lorsque les savants dans leurs propos disent al-aslu fi dhalika al-wujub ma lam yasrifhu sarif, à la base dans cet ordre, il s'agit de l'obligation tant qu'il n'y a pas un élément qui vient montrer que cet ordre en réalité n'est pas une obligation. Ils disent aussi al-aslu fi an-nahy at-tahrim, à la base dans l'interdiction, qui sont les interdictions qui sont dans les textes, ce qui est voulu, c'est l'interdiction formelle, c'est-à-dire que la chose interdite est illicite, haram, tant qu'il n'y a pas un élément dans les textes prouvant qu'il ne s'agit pas ici d'une interdiction illicite mais autre, comme quelque chose de réprouvé. Donc, dans ce sens-là, les savants disent « al-asl ». Ils veulent dire par là « à la base ». Aussi, ils utilisent le terme « al-asl » dans le sens de la preuve, « dalil ». Ils disent par exemple, le asl de la prière et de l'aumône, c'est-à-dire la base de la prière et de l'aumône, on entend par là la preuve qui montre l'obligation de prier et de payer l'aumône, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa aqimu salat wa atu zakat, dans le sens rapproché, accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Par exemple, si tu veux dire quelle est la base du jeûne, tu réponds la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Ce qui est voulu dans la parole des savants lorsqu'ils disent usul as-sunna, les fondements de la sunna, ce sont les bases sur lesquelles doit s'appuyer le croyant dans le domaine de l'adoration, de la croyance et de ce qu'on appelle al-mu'amala, l'échange avec autrui. Et ces bases-là doivent être puisées du Qur'an, de la sunna, ce qu'on appelle an-nas, le texte. Elles doivent être puisées du texte et mises en pratique à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs, les premiers de cette communauté. Dans l'écrit que nous avons entre nos mains, il s'agit particulièrement de al-aqidah, de la croyance, et al-manhaj, la méthodologie, la façon de comprendre et de mettre en pratique les textes des pieux prédécesseurs. Et beaucoup de savants ont des écrits où ils traitent de la sunna, et ils s'intitulent Sharh sunna, l'explication de la sunna, ou directement as-sunna, la sunna, et d'autres noms encore. Ce qui est voulu dans ces écrits à chaque fois, c'est la croyance et le manhaj, le credo et la méthodologie qu'avaient les pieux prédécesseurs, le dogme et la croyance, la foi qu'ils avaient. Rahimahumullahu ta'ala. Bien sûr, ici, la liste n'est pas exhaustive, mais il s'agit des fondements de la croyance les plus importants. Et celui qui les met en pratique est un sunni, un adepte de la sunna, un salafi qui suit les pieux prédécesseurs, qui marche sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie à aimer par Allah, et dont le suivi est légiféré par Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui contredira ces fondements est une personne adepte de l'innovation. Elle ne fait pas partie des gens de la sunna. Lorsque les savants disent as-salaf, les pieux prédécesseurs, ce sont des terminologies dont nous avons besoin de comprendre l'essence. Le terme salaf, dans le sens linguistique, signifie ce qui est passé. Par exemple, le jour passé, tu peux l'appeler en arabe al-yawm salif, al-yawm al-madi, le jour passé. Allah Azza wa Jal a dit au sujet de Fir'aoun et de son peuple, lorsqu'Allah Azza wa Jal a décidé de leur infliger ce châtiment de la noyade, wa ja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, et on a fait d'eux un salaf et un exemple pour ceux qui viendront après. De quoi est-ce qu'on parle ici? Une leçon passée, une leçon à tirer d'un fait qui s'est déroulé, un fait qui s'est déroulé dans le passé. Dans la religion, lorsque les savants disent le suivi des salafs, ils entendent par là les premières générations. Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, les meilleurs de ma génération, les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui les suivront. Ce sont donc les trois premières générations de la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des salafs. C'est le premier salaf sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens où c'est notre premier modèle passé à suivre. C'est pour cela qu'il a murmuré dans l'oreille de sa fille, Fatima, radiyallahu ta'ala anha, peu avant sa mort, alors qu'il était allongé, malade, à l'agonie, Ni'ma salaf analaki. Quel merveilleux salaf que je suis pour toi. Ainsi, toute personne qui aspire à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala doit se cramponner à cette voie bénie, la voie appelée salafiyya, la voie des pieux prédécesseurs. Et le musulman pieux qui s'accroche à cette compréhension est celui qui est appelé salafi. Al-Sheikh Abdus Salam Barjas rahimahullah ta'ala, dans son écrit intitulé Usul ad-da'wati salafiyya, les fondements de la prédication salafiyya, a dit, en répondant à ceux qui disent que nous n'avons pas besoin de nous appeler ou de nous donner cette appellation, car Allah Azza wa Jal dans le Coran a dit huwa sammakumul muslimin, c'est lui qui vous a dénommé les musulmans. Il dit certes, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun besoin de citer ces appellations, du fait tout simplement que la croyance répandue était la même. Tu vas chez Abu Bakr, tu le quittes pour rejoindre Omar, tu le quittes pour voir Othman ou Ali ou Abdurrahman ibn Auf ou autres et autres parmi les compagnons, la croyance est la même. Mais à la fin du califat de Ali radiallahu anhu et de Othman, les innovateurs ont pris naissance. Ils sont apparus dans l'histoire de l'islam, se prétendant justement de l'islam et de la voie des compagnons. Il a fallu se distinguer le vrai du faux, car distinguer le vrai du faux est un principe dans la religion d'Allah. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, quiconque imite un peuple en fait partie. Ainsi, la voie que l'on doit suivre est la première, la seule qui est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où les innovateurs sont arrivés, des noms sont arrivés, des groupes ont pris naissance, il a fallu préserver la communauté du mal, de l'égarement de ces groupes en citant les fondements de la sunna ou les appellations qui démarquent le sunni, l'adepte de la sunna, de l'innovateur. On a trouvé pas mal, beaucoup d'appellations parmi lesquelles Ahlul Athar, les gens du Athar. Ce qui est voulu par l'Athar, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut aussi vouloir les paroles des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. On les a appelés Ahlul Sunnati wal Jama'a, les gens de la sunna et du consensus. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit Al Jama'a man wafaqa al haqq. Le consensus, c'est celui qui suit la vérité. Wa in kunta wahdak fa innaka hina idhin al jama'a. Même si tu es seul à la suivre, c'est toi le consensus. Donc le consensus, ce n'est pas le nombre. Et vous allez voir inchallah, si Allah nous le facilite, quelques règles qui permettront inchallah de voir clair dans al manhaj bi idhnillah tabaraka wa ta'ala. On les a aussi appelés Al-Firqatun Nadiya, la fraction rescapée, en référence à un hadith que nous allons traiter plus tard, inshallah. On les a appelés aussi Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe sauvé et autres. Tous ces gens-là, on les a appelés Ahlul Hadith, les gens du hadith, sont les adeptes de l'islam originel, celui qu'Allah veut que l'on suive. Subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a absolument aucun mal, c'est même demandé, de se démarquer des innovations, des innovateurs, et d'être fier de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Ce n'est ni une innovation, ni quelque chose de blâmé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dépit de l'aversion des détracteurs. Donc c'est ce qui évolue. Parmi les pieux prédécesseurs, il y a les compagnons, ensuite at-tabi'un, les suiveurs, ceux qui ont rencontré les compagnons mais qui n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il était mort. Atba'u tabi'in, les suiveurs des suiveurs. Il y a parmi tous ces gens-là les quatre imams, Ahmed, Malik, Al-Shafi'i, Abu Hanifa. Il y a aussi l'imam Al-Awza'i, Rahimahullah, Hamad ibn Salama, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a al-Razi, Abu al-Qasim, Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, l'imam Shu'bat ibn al-Hajjaj, al-Layth ibn Sa'ad, al-Mu'afa ibn Imran. Tous ces gens-là sont les savants des salafs. Certains étaient en Irak, d'autres étaient dans la région du Cham, d'autres étaient en Égypte. Tous ces gens-là, ce sont eux et d'eux que nous devons prendre nos enseignements en matière de religion. Pourquoi ? Car ils ont suivi la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad rahimahullah a commencé son écrit en citant les piliers ou les fondements de la sunna de façon globale, puis il va les détailler les uns après les autres, inshallah ta'ala. Voici pour le titre Usul al-Sunna. Usul al-Sunnati indana. Il dit les piliers, les fondements de la sunna chez nous. De qui il parle lorsqu'il dit chez nous? Qala Sheikh Abdul Aziz al-Rajihi, hafidhahullah. Le Sheikh dit indana, c'est-à-dire les gens de la sunna. Les fondements de la sunna chez nous, les adeptes de la sunna, les imams et les savants de la sunna sont les choses suivantes. Donc chez les gens de la sunna, la base de leur croyance, c'est ce que vous allez entendre ici, bi'idhnillahi ta'ala. Premièrement, at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Se cramponner à la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, nous avons donc besoin de définir qui est le compagnon, qui est celui qui est connu sous le nom de compagnon dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants de la terminologie du hadith ont présenté le compagnon comme étant man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'mina wa mata 'ala al-islam. Quiconque a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyant en lui est mort sur cette foi, sur cette religion. Et ils n'ont pas dit quiconque a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sinon on aurait exclu les aveugles parmi les compagnons, comme Abdullah ibn Ummi Maktoum radiyallahu anhu, al-Mu'adhdhin, celui qui a appelé à la prière du Fajr. Donc la définition précise est de dire quiconque a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie en étant croyant en lui, puis qui est mort sur cette croyance, est celui qu'on appelle le compagnon. De cette définition, on voit que même les enfants sont considérés parmi les compagnons. À partir du moment où ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont grandis dans la foi en lui, alayhi salatu wassalam. Certains compagnons qui, parmi lesquels le prophète alayhi salatu wassalam a fait passer les morceaux de dattes dans leur palais quand ils venaient de naître, et ça englobe aussi les grands parmi les compagnons. Et vous allez voir plus loin que les compagnons sont différents dans le rang qu'ils occupent chez Allah Azza wa Jal, dans la foi qu'ils ont, dans la place qu'ils ont tout simplement. Mais ils sont tous réunis autour de cette appellation sahabi, compagnon. Et ils ont tous cet immense mérite qui est celui d'avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc suivre les compagnons et se cramponner à leurs pratiques. الشيخ النجمي رحمه الله دي أي الاستمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكون بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من حديث الافتراق حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ سير أصحابه. الشيخ النجمي رحمه الله dit que suivre les compagnons revient à suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est de cette façon que tu connaîtras le manhaj, la méthodologie, en regardant les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est déroulé tout au long de sa vie, comment est-ce qu'il s'est comporté devant et face à l'opposant qui polémiquait, na'am, ou qui s'opposait aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, connaître la vie des califes bien guidés qui sont Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et le prophète nous a ordonné de les suivre, particulièrement au moment où la divergence va prendre naissance au sein de la communauté, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi ainsi que l'imam Abu Daoud rahimahum Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: fa'alaykum bi sunnati, cramponnez-vous donc à ma sunna, wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin, et à la sunna de mes califes bien guidés, bien orientés. Tamassaku biha, cramponnez-vous-y, wa 'addu 'alayha bin nawajid, et mordez-y avec vos molaires. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur, et prenez garde aux choses nouvelles. فإن كل محدثة بدعة, car toute chose nouvelle est une innovation. C'est donc eux que nous devons suivre, et c'est eux qui ont été décrits comme étant la fraction rescapée ou bien le groupe sauvé, en référence au hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud sous le numéro 4596 selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il est aussi rapporté par l'imam al-Tirmidhi sous le numéro 2641 par le compagnon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et ce hadith a été jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah, le plus grand savant de la science du hadith de notre époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que cette communauté musulmane va se diviser en 73 fractions. Toutes entreront dans le feu, à l'exception d'une. Les compagnons ont dit: qui est-elle? Qui sont-ils, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils sont ceux qui sont sur la même voie que la mienne et celle de mes compagnons. Ceux qui sont sur la même voie que la mienne et ceux de mes compagnons. Ce sont des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas éprouver d'aversion pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas avoir de gêne à étudier ce que le prophète nous a transmis comme révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah a dit: à partir de là, il incombe particulièrement à l'étudiant en science de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nahmadullah, et on remercie Allah azza wa jal par son infime grâce qui nous a permis de le faire, walhamdulillah, dans cette mosquée. Et lire la vie des compagnons, Al-Sheikh al-Najmi appuie sur l'importance de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître les compagnons. Car malheureusement, beaucoup parmi les frères de la sunna, les adeptes de la sunna, ont un manque. Moi le premier, nous avons un manque dans la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. dans la connaissance des compagnons radiallahu anhum. Et si on veut être enraciné dans notre manhaj, béni dans cette méthodologie, nous devons connaître ces personnes. Nous devons connaître leur façon de comprendre les textes et de les mettre en pratique. قال الشيخ ربيع حفظه الله خلافا لأهل البدع فإنما يتبعون أهواءهم ويعتمدون على عقولهم الفاسدة أو يزعمون أنهم يعتمدون على لغة العرب أو غيرها من القياسات الفاسدة. الشيخ ربيع dans ce passage dit: nous devons donc suivre les compagnons et se cramponner à leur pratique de la religion, contrairement aux gens de l'innovation qui, eux, suivent leur passion et se basent sur leur raisonnement perverti ou prétendent s'appuyer sur la langue arabe ou d'autres analogies erronées. Les gens de la sunna, en premier lieu, prennent la religion des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans le moindre doute, car ils sont ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Coran révélait, ils étaient assis, ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était touché par la révélation, car la révélation descendait et le prophète la recevait de plusieurs façons. Des fois il la recevait d'une façon où il s'écroulait et il avait des sueurs qui coulaient de son front, si bien qu'un jour il s'est écroulé sur quelqu'un qui était à côté de lui et son corps était très lourd, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ces récits là les compagnons sont assis en ce moment même et ils voient le prophète recevoir la révélation, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons sont les gens qui ont été élus par Allah et choisis pour vivre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: les compagnons sont au-dessus de nous dans toute science, toute expérience, dans tout raisonnement, dans toute chose. La vie des compagnons pour nous est meilleure que notre avis pour nous-mêmes, radiyallahu ta'ala anhum. Car quand ils vont parler, ils ne vont pas parler sous l'effet de leur passion, contrairement à beaucoup de gens dans cette époque. Ainsi, nous devons suivre la méthodologie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc spécifié les compagnons sallallahu alayhi wa sallam en raison du mérite qu'ils ont, car ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui viendra après les compagnons ne sera que suiveuse des compagnons. Et si on la suit, ce n'est que parce qu'elle nous a transmis des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Les compagnons sont tous intègres, dignes de confiance. On ne cherche pas à vérifier l'intégrité d'un compagnon. Et ceci est connu chez les savants du hadith. Les compagnons sont tous intègres. Et dans la science du hadith, quand ils vérifient l'authenticité et la chaîne de narrateur, ils ne vérifient pas les compagnons. Même s'il est majhoul, même si l'identité de ce compagnon n'est pas connue, à partir du moment où dans le hadith il est dit un compagnon et le récit est authentique, même si on ne sait pas qui est ce compagnon, on est sûr que le récit est authentique. Parce qu'Allah a donné cette règle, radiyallahu anhum wa radu an, surat al-Tawbah. Allah les a agréés et eux aussi l'ont agréé. Allah les a agréés, ils sont tous intègres. Celui qui remet en doute l'intégrité d'un compagnon n'est pas dans la sunna. Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit: wa kayfa kanu, on doit savoir comment est-ce que ces gens étaient. Laqad tara'at al-bid'a min ba'dihim wa min awa'il al-bid'a allati tara'at bid'atu al-khawarij wa bid'atu ar-rafd wa bid'atu al-i'tizal wal-qadar wa hakadha tataba'at al-bid'a. Nous devons tous connaître ces personnes-là, car c'est après eux
que les innovations ont pris naissance. Les compagnons vivaient sur le Coran, sur la Sunna. Leur religion était pure, saine. Elle n'a pas connu d'altération, de falsification, de fausse interprétation, explication. Lorsqu'ils invoquaient Allah, ils l'invoquaient avec ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils adoraient Allah, ils le faisaient conformément aux enseignements de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à la fin du califat de Uthman, radiyallahu anhu, une des premières innovations a pris naissance, la bid'a des khawarij. Et les khawarij, ceux qui sont appelés khawarij, le terme khawarij est le pluriel de kharijiy, kharijiyun, issu du verbe arabe kharaja, qui signifie sortir. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés khawarij? Car ils sont sortis pour se rebeller contre le gouverneur de leur époque, qui n'était autre que le meilleur des hommes de la terre de cette époque, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Ils se sont rebellés contre lui et révoltés, radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour cela qu'on les a appelés al-Khawarij. Aussi, car ils sont sortis et se sont reclus de la société musulmane, en les taxant tous de mécréants pour des fausses excuses ou des faux prétextes, des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré de preuves. Ils sont partis s'installer dans un patelin ou dans un village qu'on nomme Haruriya, ou bien pardon Harura, na'am, Harura. C'est pour cela qu'ils ont été connus sous le nom de Haruriya, en référence à l'endroit où ils ont été s'installer. Et donc chez les salafs, quand ils disaient Haruriya, les Harourites, ils parlaient des Khawarij qui se sont isolés de la communauté musulmane, de la société, et qui se sont installés dans cet endroit Harura, pour montrer leur rébellion et leur opposition face au gouvernement de l'époque tenu par Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'époux de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. D'autres noms ont été donnés aux Khawarij, parmi lesquels Al-Mariqoun, qui veut dire les sorteurs, car ils ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ils sortent de la religion comme la flèche sort de sa cible après l'avoir transpercée. Lorsque le chasseur lance la flèche sur le lapin qu'il veut chasser, cette flèche transperce le corps et elle en sort de l'autre côté. La vitesse à laquelle la flèche transperce la cible et sort de l'autre côté est la même à laquelle les Khawarij sortent de la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accentué la mise en garde contre un groupe parmi tant d'autres comme il l'a fait avec Al-Khawarij. Il a donné ses définitions, ses descriptions, leur façon d'adorer Allah Azza wa Jal, leur façon de comprendre la religion, ce qu'ils feront comme action. Il a aussi décrit sallallahu alayhi wa sallam le châtiment qu'ils méritent chez Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont les pires tués de cette terre. C'est-à-dire que quand les gouverneurs musulmans les combattront et les éradiqueront, et qu'ils deviendront des cadavres tués, ils seront dans cette terre les pires, les plus mauvais parmi ceux qui ont été tués. Et ceux que eux vont exécuter, leurs victimes, seront les meilleures victimes de cette terre. Subhanallah. Et ils sont ceux qui ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Ils sont ceux qui ont tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et qui ont essayé de tuer Amr ibn al-As en Égypte et Muawiyah au Sham, mais ils n'ont pas réussi. Et celui qui a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Muljam, était au début un compagnon ou un il était au début, pardon, quelqu'un qui vivait sous le califat de Omar et qui était aimé et apprécié par Omar. Si bien que Omar l'avait choisi pour enseigner le Coran aux enfants. Et quand Amr ibn al-As en Égypte a demandé à Omar, le gouverneur des musulmans, de lui envoyer un enseignant du Coran pour les jeunes, Omar lui a envoyé Abdurrahman ibn Muljam. En Égypte, il a rencontré les Khawarij, les innovateurs, et il a été aspiré par leurs ambiguïtés, il en est devenu un. Plus tard, c'est Abdurrahman ibn Muljam qui va prendre un couteau avec 7 lames. Il va le tremper dans le poison pendant 1 mois. Et il va dire, ces 3 lames sont pour Allah et son messager, et les 4 autres sont pour moi. Et il va aller jusqu'en Irak, où se trouve Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Et il va attendre l'heure de la prière de l'aube, pour que Ali quitte sa maison pour la mosquée. Et en chemin, il va le poignarder et le tuer de la façon la plus criminelle. Et à cette époque-là, il va assassiner l'homme le plus pur de cette planète. Subhanallah. Le plus pieux, le plus proche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur la surface de la terre, va être assassiné par un khariji. Qabbahahum Allah. Et les khawarij ont des enfants. Et leurs enfants ont eu des petits-enfants. Et leurs petits-enfants ont eu des petits-petits-enfants. Al-Qaïda, Daesh, Al-Nusra, ce qui se fait appeler l'État islamique ou autre, tous ces gens-là ne sont que les petits-petits-petits-enfants, les descendants des Khawarij. Ils taxent de mécréants les gouverneurs musulmans pour un grand péché. Ils taxent de mécréants les croyants pour un grand péché. Et le détail, peut-être qu'on verra après quelques autres points. وَبِدْعَةُ الرَّفْضِ. Parmi les innovations qui ont pris naissance à la fin des califes, بِدْعَةُ الرَّفْضِ, l'innovation dite الرَّفْضِ. الرَّفْضِ vient du verbe رَفَضَ. رَفَضَ qui veut dire refuser. Il s'agit ici des chiites qui ont refusé le fait que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu soient les califes de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du fait qu'ils ont refusé ceci, on les a appelés al-Rafida. Je ne pense pas qu'on peut dire refuseur, ça ne se dit pas. Les négateurs, na'am. Les négateurs, ceux qui ont refusé d'accepter le califat des deux compagnons. Comme l'a cité Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit tout simplement ce que vous venez d'entendre. Walhamdulillah. Et les Rafidah disent que la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apostasié et sont devenus mécréants. Ils disent que une infime partie de ses compagnons sont restés sur la croyance authentique. Wal'iyadu billah. Ils taxent Aisha radiallahu anha, la femme chaste, pure, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir commis l'adultère et d'avoir trompé son époux, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le Coran est falsifié et que eux auront une copie ou la vraie copie du Coran qui est cachée je ne sais où et qui viendra un jour. Ils disent beaucoup de choses très graves dans la croyance. Et c'est pour cela que les savants ont jugé mécréant la tribu, la partie Rafida des chiites. Thumma bid'atu l'i'tizal. Puis la bid'a dite de l'i'tizal. L'i'tizal, c'est le reclus, le fait de s'isoler. Et cette innovation, on les a appelés al-mu'tazila, les mu'tazilites, ou bien al-mu'tazila, du verbe i'tazala, se mettre en reclus ou s'isoler, à cause de ce dénommé Wasil ibn Atta, qui est la tête des Mu'tazila. Wasil ibn Atta al-Ghazal,
qui était un jour dans l'assise de l'Hassan al-Basri, rahimahullah, un tabi'i de la deuxième génération, un homme pieux et pur, un savant de la sunna, un défenseur du haq, de la vérité. Dans l'assise, al-Hassan montrait que parmi la croyance des gens de la sunna, le fait que celui parmi les croyants qui commet un péché majeur, comme boire l'alcool, forniquer, voler, consommer l'intérêt ou autre parmi les péchés majeurs, n'est pas mécréant, mais il est pervers chez Allah, Azza wa Jal. Wasil ibn Atta était présent et a dit, Al-Hassan, celui qui commet des grands péchés dans la communauté n'est pas mécréant et n'est pas croyant non plus. Ils ont inventé Al-Manzila, Bain Al-Manzilatayn, l'état entre les deux états. Soit tu es mécréant, soit tu es croyant. Eux, ils ont inventé entre ces deux états, la croyance et la mécréance, un état intermédiaire qui est l'état entre les deux. Ils disent, celui qui commet un péché majeur, celui qui consomme l'alcool, n'est pas croyant. On leur dit, il est mécréant? Ils disent, non, il n'est pas mécréant. Et ils disent qu'il est dans le feu de l'enfer, on ne peut pas intercéder pour lui. Quand Hassan, rahimahullah, a entendu ça, il a exclu Taradahu et l'a viré de son assise et il s'est donc isolé de l'assise de l'Hassan. À partir de là, ils étaient connus comme Al-Mu'tazila, ceux qui se sont mis en reclus, ceux qui se sont isolés de l'assise de l'Hassan. Puis les années sont passées et on a gardé ce nom Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila qui disent que le Coran est créé et qui nient la vision d'Allah le jour dernier pour les croyants, et bien d'autres choses encore, des égarements qui sont tous aussi graves les uns que les autres. Wal-iyadu billah. Wal-qadar, l'innovation du destin. Al-qadar, on les appelle Al-qadariya. Et Al-qadariya, ce sont ceux, on les appelle les en français, ils écrivent Qadarik, avec Q, la lettre Q. Al-qadariya, en réalité, ce sont ceux qui ont commencé à répandre l'idée fausse que il n'y a pas d'action prédestinée par Allah. Nous sommes les maîtres de nos actions et Allah ne sait pas ce que nous allons faire. Wal-iyadu billah. Et Allah Azza wa Jal ne l'a pas décrété. Subhanallah. Puis, à l'époque des tabi'in, les premiers qui ont entendu cette bid'a, cette innovation dans la croyance, ont dit si seulement on pouvait voir un compagnon. Ils ont décidé d'aller à Al-Madina et Mecca à la recherche d'un compagnon pour lui amener cette shubha, cette ambiguïté, afin qu'il y réponde et la dissipe par l'épreuve du Coran et de la Sunna. En voyage, donc Al-Qadariya, ils ont aussi d'autres égarements, parmi lesquels ils nient l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le prophète n'intercédera pas en la faveur des grands pécheurs de la communauté pour qu'ils sortent du feu pour entrer dans le paradis. Ils renient la vision d'Allah le jour dernier. Ils renient le châtiment de la tombe. Ils renient les questions posées par les deux anges dans la tombe, quand on sera tous enterrés. Ils renient l'établissement de la balance et les plateaux sur lesquels les bonnes et les mauvaises actions seront pesées. Ils disent que le Coran est créé et ils ont d'autres aussi parmi les innovations. C'est pour cela que certains salafs les décrivaient comme étant Majus ou Hadihil Umma, les mages de cette communauté. Les mages, les adorateurs du feu. Car Al-Qadariya, si on réunit tous les fondements de leur croyance, ils n'ont plus rien de l'islam. Ils n'ont plus rien de la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Beaucoup ici, vous connaissez le hadith Jibril, n'est-ce pas? Vous connaissez tous le hadith Jibril, où Jibril vient sous la forme humaine au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demande qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la bienfaisance. Qui a rapporté ce hadith? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Qui a rapporté ce hadith? de Omar, son fils Abdullah. Quelles sont les circonstances qui ont poussé Omar, Abdullah ibn Omar, à rapporter ce hadith? L'apparition de l'innovation du qadr, du destin. Quand les premiers ont commencé à dire, il n'y a pas de prédestiné, mais ce sont nous qui sommes les maîtres de nos actions, indépendamment du destin d'Allah. Wal'iyadu billah. Ils ont voyagé, les gens de la Sunna de l'époque, ont voyagé de l'Irak, car c'est en Irak que cette innovation est apparue, vers Al-Hijaz, la terre du Hijaz, vers Médine ou Mecca. Puis ils ont rencontré Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, et lui ont soumis la question. « Oh Abdullah, il existe des gens parmi nous qui disent qu'il n'y a pas de prédestiné. » Quand Abdullah, radiyallahu anhu, a entendu cette parole, il a immédiatement dit « Allez informer ces gens que Abdullah ibn Omar n'a rien à voir avec eux, qu'il se désavoue totalement d'eux et qu'il en est innocent. » Et dites-leur aussi que ces gens-là sont innocents de Abdullah ibn Omar et n'ont rien à voir avec lui. Radiyallahu anhu. Dites-leur qu'Allah n'acceptera d'eux aucune action, qu'elle soit obligatoire ou recommandée, jusqu'à ce qu'ils croient au destin. J'ai entendu mon père dire, et il ramène le hadith que vous connaissez tous, qui est le deuxième hadith dans les 40 hadiths. C'est dans cette circonstance que ce hadith a été rapporté. Pourquoi est-ce que Abdullah a rapporté tout ce hadith? Car dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi » et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est donc un des fondements de la croyance du musulman. C'est donc un des fondements de la croyance des musulmans de croire au destin. « Wa hakadha tataba'atil bid'a » et c'est ainsi que les innovations sont venues les unes après les autres. Les messagers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient une position ferme devant les innovations et les innovateurs. Lorsqu'ils étaient devant l'innovateur, ils le blâmaient. Ils le blâmaient et n'hésitaient pas à être fermes quand il s'agissait de la religion d'Allah, comme vous venez de l'entendre de Abdullah ibn Omar, qui immédiatement s'est désavoué de ses innovateurs et leur a dit qu'Allah ne les acceptera que quand ils reviendront à la foi au destin. De même, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a combattu les Khawarij qui se sont opposés à lui, Ali les a éradiqués, il les a éliminés, a été très dur avec lui, mais son assassin a réussi à prendre la fuite. Et c'est quelques années après qu'il va se concerter, Abdurrahman ibn Muldjam, avec celui qui voulait tuer Amr ibn al-As et l'autre qui voulait tuer Muawiyah, les meilleurs, les sahaba radiallahu anhum. Ils se sont concertés entre eux et se sont dit, on doit les éliminer. Quant à moi, je me cherche de Ali. L'autre a dit, quant à moi, je me cherche de Amr qui est en Égypte. Ali qui est à Koufa en Irak. Et le troisième, quant à moi, je me charge de Muawiyah, qui Muawiyah est dans le Sham. Il est dans le Sham. Et alors ils se séparent. Abdurrahman ibn Muldjam va en Irak et il arrive à tuer Ali. Le deuxième va en Égypte et il arrive à la prière du Fajr, car ces gens-là assassinent les gens pendant les heures de prière. Pendant les heures de prière, pendant le mois de Ramadan. Et vous le voyez, n'est-ce pas? Ces gens-là au cœur égaré, ils saisissent ces occasions où les gens vont invoquer Allah pour les tuer. Wal'iyadu billah. Il arrive à la prière du Fajr et poignarde celui qui dirige la prière. Mais Allah avait décrété que ce n'était pas Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, mais quelqu'un à sa place. Il a donc été épargné. Quant au troisième qui a été au Sham, il a réussi à toucher et a blessé Muawiyah sans pour autant le tuer, puis il s'est fait attraper. Ali radiallahu anhu a été très dur avec les Khawarij. Il les a éliminés, il les a éradiqués. Et il a d'ailleurs envoyé Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma pour débattre avec eux. Et 4000
d'entre eux se sont repentis. Regardez la science. Et peut-être qu'on parlera de ce récit plus tard, inshallah. Abdullah ibn Abbas a mis les meilleurs vêtements. Et il a dit à Ali radiallahu anhu, ô gouverneur des croyants, donne-moi l'autorisation d'aller les appeler à Allah. Ali a dit, je crains pour ta personne, car ces gens-là n'hésitent pas à tuer. Compagnon ou pas compagnon, ils tuent. Wal'iyadhu billah. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a insisté, Ali l'a accepté. Il a mis les meilleurs vêtements et il est parti débattre avec eux. Il les a appelés à Allah et avec les versets et les hadiths, et 4000 d'entre eux se sont repentis. Ils sont revenus avec lui chez Ali. Et quant aux autres, Ali les a combattus, radiallahu ta'ala, anhu, dans le jour qu'il est connu sous le nom de Yawm al-Nahrawan. Wa hakadha nara ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam قد وقفوا من البدع التي ظهرت في حياتهم موقف المنكر لها. الشيخ النجمي dit, et c'est ainsi que nous voyons les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam avoir des positions fermes devant les innovations qui prirent naissance pendant leur vie. والمعادي لتلك البدع, ils témoignaient l'aversion pour les innovations et les innovateurs. Il les détestait. Il les détestait. Et il y a un récit qui est rapporté dans le recueil d'Ibn Majah rahimahullah au sujet des Khawarij. حيث رأى Abu Umama, le compagnon Abu Umama al-Bahili radiallahu anhu, a vu رؤوس رجال من الخوارج قد صلبت, des têtes de Khawarij qui avaient été, car ils avaient été éradiqués, on leur avait déclaré la guerre, et leur tête avait été accrochée. فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ وَالشَّرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. Abu Umama les a vus et a dit, regardez les chiens de l'enfer, et regardez les pires des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en raison du mal qu'ils ont fait. Donc dans ce premier passage, l'imam Ahmad rahimahullah montre l'importance de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh Ubayd hafidhahullah a dit, ce sur quoi les compagnons sont unanimes, on n'a en aucun cas le droit de le contredire. Et les gens qui contredisent les compagnons dans ce sur quoi ils sont unanimes sont de deux catégories. Il y a man khalafahum amidan alima, celui qui les contredit en pleine connaissance de cause volontairement. Fahuwa dalun mudillun mubtadi'un sahibu hawa, cet individu est un égaré, égareur, innovateur, suiveur de ses passions. Pourquoi il dit ça? Il ne parle pas sans science. Il fait référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nisa. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Selon le sens rapproché, Allah azza wa jalla nous dit, et quiconque fait scission avec le messager et suit un chemin autre que celui des croyants après que la guidée lui soit parvenue clairement, nous le laisserons s'en remettre à ce vers quoi il s'est détourné et le brûlerons dans la fournaise, et quel mauvais lieu de retour. Vous voyez ici, Allah Azza wa Jal menace ceux qui font scission d'avec le messager. Ils étaient dans la sunna et ils sortent de cette dernière, et qui suivent une voie autre que celle des croyants. À l'époque où Allah révèle ce verset, qui sont les croyants? Sahaba radiallahu anhu, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée. Donc il a appelé cette voie la voie des croyants, sabilul mu'minin, donc la voie qu'ils suivent, sur laquelle ils sont unanimes. Celui qui fait scission avec cette voie et qui s'y oppose,
sort de la voie des compagnons et sort de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans le moindre doute. Et ceci a été détaillé par le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre intitulé c'est un autre passage qu'on verra plus tard inshallah. Puis Cheikh Ubayd continue et dit le deuxième, c'est l'ignorant, al-jahil. L'ignorant, la conduite à adopter avec lui est tout à fait différente. Il faut lui enseigner ce qu'il ne connaît pas et lui montrer les bases. Les savants vont lui enseigner, vont lui montrer. Puis si il a vu les preuves, il les a assimilées et il décide quand même de s'y opposer, alors il rejoint le nombre des innovateurs et il n'y a en aucun cas il ne fait partie des gens de la sunna, puisque maintenant il sait et il a suivi les passions wal'iyadu billah. Ainsi vous voyez la gravité de critiquer les compagnons, et vous allez voir que dans cet écrit il y a un chapitre pour les compagnons. Et celui qui critique les compagnons a critiqué beaucoup de hadiths. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté plus de 5000 hadiths. Les chiites le critiquent et remettent en cause son intégrité. Pire encore, ils disent qu'il est mécréant. Donc ce sont 5000 hadiths du prophète qui partent aux oubliettes. Wal'iyadu billah. Et celui qui critique les compagnons en les taxant de mécréants, écoutez bien, en les taxant de mécréants ou bien d'apostats, ils étaient croyants, ils ont quitté la religion, ou en disant que la majorité des compagnons sont des pervers, est un mécréant à l'unanimité des savants. Comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son écrit sur celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on retrouve chez Ar-Rafidah. Ar-Rafidah, les pires égarés des chiites. Donc, c'est un acte de mécréance sans le moindre doute. Une question, comment est-ce que le musulman doit se comporter devant quelque chose qui vient d'un compagnon ? Cheikh Ubayd dit, premièrement, il y a ce que le compagnon radiallahu anhu nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'acceptation de cet ordre, cette information, est une obligation à chaque musulman. La polémique est formellement interdite. Deuxièmement, il y a ce qui nous est rapporté authentiquement du compagnon. Wallahi, vous perdez beaucoup de choses là, pour ceux qui écrivent pas. J'espère que c'est la dernière fois que vous venez sans stylo et sans feuille et sans cahier, parce que vous perdez beaucoup de choses. Deuxièmement, à partir du prochain cours, vous venez pour l'ab al-ilm, à la recherche de la science. Stylo, cahier. Ne prenez pas les petites feuilles que vous allez jeter après, vous allez perdre. Un cahier, usul as-sunna, les fondements de la sunna, de Sheikh Najmi, qala Sheikh Fulan, qala Sheikh Ubayd, et vous écrivez, et vous gardez ça, et vous révisez. Je reprends, deuxième chose, il y a ce qui nous parvient du compagnon, radiallahu anhu, pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais dans un domaine où l'effort d'interprétation est interdit. Le jugement de cette chose est que cette chose est comme une sunna. On dit que c'est comme si le prophète nous l'avait donné. C'est-à-dire, le compagnon va nous donner une information, un ordre, quelque chose, un élément, en rapport avec un domaine où on n'a pas le droit de faire un effort d'interprétation, comme al-aqida, comme la croyance. Le compagnon va nous donner un nom d'Allah. Le compagnon va nous donner une information relative au jour dernier. Le compagnon va nous donner une information relative à la croyance, à l'invisible. On regarde, la chaîne de narrateurs est authentique. Le compagnon l'a véritablement dit, c'est comme si le prophète l'a dit. Pourquoi ? Parce que les compagnons ne font pas d'effort d'interprétation dans un domaine où cette chose est interdite.
comme la croyance ou comme les choses de l'invisible. Donc si le compagnon l'a dit de façon authentique, c'est sûr et certain qu'il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne nous dit pas que c'est le prophète qui lui a dit. Comprenez? Ça c'est très important. Les savants ont émis une condition, à condition que ce compagnon ne prenne pas beaucoup des gens du livre. À condition que ce compagnon ne prenne pas beaucoup des gens du livre. Ça, c'est une condition émise par les savants du hadith. Troisième chose, je reprends la première, c'est ce que le compagnon nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est authentique. Obligation de prendre cette chose et de la suivre. Deuxièmement, ce que le compagnon nous dit ou fait et qui est authentique, il nous donne une information relative à un domaine où l'effort d'interprétation est interdite. C'est comme si c'est le prophète qui l'a dit, on doit l'apprendre. Tant que ce compagnon n'a pas pris beaucoup des gens du livre. Troisièmement, ce que le compagnon fait ou dit qui est authentique, et alors, soit ce que le compagnon a fait et a dit qui est authentique. Donc premièrement, pardon, cette chose ou cette parole qu'il a fait ou qu'il a dite est en conformité avec un texte authentique ou dont l'authenticité est acceptée, alors on le prend, on ne discute pas. Ou bien, ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهذا أيضا. Le compagnon va faire quelque chose, va dire quelque chose où les compagnons sont unanimes. On prend cette chose, on la suit, on y croit. Car le consensus des compagnons est une preuve, comme a dit Cheikh Ubayd. C'est une preuve. Même si tu ne vois pas قال الله قال رسول الله dans la question, si tu as vu que les compagnons sont unanimes, tu dois prendre cette chose. Car leur unanimité est aussi une preuve. Ensuite, quatrièmement, il y a le point où le compagnon va faire quelque chose, dire quelque chose, où il va être contredit par d'autres compagnons. À ce moment-là, les savants regardent l'épreuve et prennent la parole qui est la plus proche de la preuve. Voici la conduite à avoir avec ce qui vient du compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voici le résumé de la parole où l'imam Ahmed appuie sur l'importance de se cramponner à la pratique des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.